I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, c'est bien oui un titre provocateur aujourd'hui, mais avant de rentrer dans mon histoire amoureuse, oulala, on va bien entendu commencer par le commencement, j'ai nommé le sommaire de l'émission. Et cette semaine, on va voir un safariste, on va manger un donut totalement brûlé, bah oui, et parler de vous, de vous, de vous. Oui, c'est tout un programme. Mais on va maintenant rentrer dans le vif de sujet de cette émission et parler d'amour. Ah, l'amour, l'amour, je sens que certains vont être tout émoustillés, le côté voyeur qui se dit « Oh, 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 on va avoir du croustillant sur sa vie amoureuse au Japon », et bah, je suis désolé, non, ça va pas être ça, enfin, un peu, mais pas vraiment. Car oui, on va parler d'amour, et oui, ça se passe au Japon, mais non, ce n'est pas une histoire d'amour impossible avec Megumi ou un cochon d'Inde qui s'appellerait aussi Megumi. Non, je vais vous parler de comment je suis tombé amoureux de la ville de Kyoto. Alors j'en vois déjà qui sont en train de se dire « Eh mec, Kyoto c'est quand même une ville qui est magnifique, qui est sûrement l'une des plus belles villes du monde. Bon, bah tu vas pas nous faire un podcast de 20 minutes là-dessus. Oui, c'est normal de tomber amoureux d'une ville aussi jolie. » Et ils ont pas tort, hein, parce que voilà, c'est vrai que Kyoto c'est une très belle ville. Sauf que si je vais faire un podcast là-dessus... Vous êtes un vieux de la vieille du podcast, si vous le connaissez un petit peu, voilà, vous avez écouté les 118 épisodes, bon, ça fait quand même beaucoup d'épisodes, donc bravo à vous, hein, 118, ça commence à faire pas mal. Vous le savez sûrement, en vacances, j'avais pas vraiment eu un crush pour la ville de Kyoto. J'étais venu deux fois donc à Kyoto en vacances, à chaque fois par contre je logeais sur Osaka, je logeais pas à Kyoto parce que c'était bah, beaucoup plus cher qu'Osaka en général, et que vu le trajet entre Osaka et Kyoto... Ça se fait voilà, en 40 minutes chrono, hein, voire en 30 minutes si vous êtes vraiment de porte à porte. Je me disais, bon, autant payer moins cher. Hein, si je veux rester la nuit sur Kyoto, je vous ai déjà fait des épisodes là-dessus pour savoir où dormir. Moi, Osaka m'avait toujours semblé être un bon plan. Et du coup, bah, je venais gambader à chaque fois quelques jours sur Kyoto. La première fois, j'avais fait tous les classiques, c'est-à-dire que j'avais dû passer environ 5 jours sur Kyoto et 10 jours dans le Kansai, de mémoire. Ou j'avais peut-être même passé même 14 jours, je crois que j'étais resté assez longtemps. Et j'ai dû faire 5-6 jours vraiment en plein Kyoto, enfin vraiment, on fait que du Kyoto 5-6 jours. Et encore, je pense que je comptais pas Arashiyama et voilà, les petites choses à côté qui sont en banlieue de Kyoto. Et la deuxième fois, bah, j'avais dû faire, je pense, 3-4 jours sur Kyoto en dormant sur Osaka, mais pas que. Parce que je me rappelle aussi avoir fait un aller-retour en logeant à Nagoya, car je le rappelle, en Shinkansen, c'est à seulement 30 minutes de Kyoto. Nagoya-Kyoto, c'est 30 minutes. Donc si vous avez un JR Pass, il n'y a rien de bien compliqué. Et à chacune de mes vacances, bah, j'avais toujours ce sentiment qui était très mitigé sur la ville, hein, vraiment. Parce que oui, clairement, la ville, elle est belle. Il y a des monuments, des attractions touristiques de ouf, et je dis toujours que Kyoto, c'est une ville musée à ciel ouvert. Et en plus... J'ai souvenir que toutes les photos que je prenais là-bas, je kiffais. À chaque fois, moi, vous savez, j'aime bien prendre des photos. Et je faisais toujours des super photos. J'étais content là-bas. J'arrivais à prendre des photos de gens. J'aime bien voler des photos de gens. Alors, certains vont dire que c'est pas très bien, mais moi, j'aime bien voler certains instants. Je suis pas trop le côté, on pose, etc. Et là-bas, bah, voilà, j'avais des super photos à faire. Et j'étais toujours content du résultat de mes photos. Je trouvais que c'était un super terrain de jeu pour ça. Mais il y avait un mauvais côté, c'est que c'était justement très touristique. Il y a un touriste de masse qui, à chaque fois, m'a beaucoup rebuté. Pour ceux qui ne sont pas allés au Japon depuis longtemps, quand on leur dit ça, moi j'ai souvent eu cette discussion et il y a souvent des gens qui m'ont dit « Moi, je trouve pas Kyoto, ça va, il y a un peu du monde, mais sans plus. » Mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec le temps. Je sais que des gens qui sont arrivés, par exemple, avant Fukushima, qui avaient allé au Japon avant Fukushima, c'était pas la même chose. Il n'y avait pas autant de touristes chinois, il n'y avait pas autant de touristes de masse, en général, ou touristes asiatiques. Il y a aussi beaucoup de touristes étrangers du genre western. Western, je sais que ça veut rien dire, mais j'ai pas le mot en tête en français. Mais vous voyez, voilà, y a pas d'Américains, de Brésiliens, de Français, d'Allemands, etc. Enfin, il y en avait, mais il y en avait là aussi maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais depuis quelques années, c'est vraiment un tourisme de masse qui est très important à Kyoto. vraiment. Et au point même que les locaux en discutent, que les locaux en ont marre parfois, une certaine catégorie. Moi, j'ai vu des endroits dans Kyoto avec plein de panneaux qui disaient « Stop les Airbnb, on veut plus de Airbnb, etc. Airbnb dehors. » Vraiment des choses un petit peu agressives qu'on voit pas forcément au Japon. Et c'est assez surprenant même d'avoir des quartiers comme ça, pas plein de quartiers. Mais voilà, maintenant, il y a des règles. Maintenant, dans certaines rues à Kyoto, on peut de moins en moins prendre de photos. Il y a des rues qui sont vraiment interdites aux photos et il y en avait de plus en plus. Moi, sur l'année où j'y étais, il y avait de plus en plus de rues où il y avait écrit pas de photos, non, les étrangers, attention, arrêtez, etc. N'allez pas embêter les geishas. Je sais que les Kyotoïtes gueulaient aussi beaucoup à cause des bus, parce que les bus sont remplis de touristes et qu'il y a certains trajets, c'est pas les gens qui vont s'en servir pour rentrer chez eux et autres, ça devient insupportable parce qu'ils ont plus de place, parce qu'il y a plein de touristes bruyants et qu'ils n'ont pas l'habitude, etc. Voilà, et c'est vrai qu'il y a un peu le choc des cultures aussi pour ça, et surtout c'est qu'il y en a trop, c'est pas forcément le choc des cultures, mais c'est qu'il y a vraiment trop de gens, il y a des endroits où il y a vraiment trop de touristes, et Kyoto pour moi fait partie. Effectivement, on est arrivé à un point où il y a certains endroits, je vais vous l'expliquer plus tard, où c'est too much, c'est vraiment too much. Et pour ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps, c'est difficile à s'imaginer, mais c'était le cas en tout cas les dernières années. Alors bon, là c'est sûr que cette année, si vous allez au Japon, enfin si vous êtes au Japon, je pense que vous n'allez pas avoir ce choc de touristes, trop de touristes. Moi j'ai vécu une petite partie du Covid sans touristes à Kyoto. C'est sûr que la ville, elle n'était pas pareille. Et on l'appréciait, même si moi j'étais triste pour les gens qui ne pouvaient pas venir et les gens qui vivent du tourisme, parce que du coup, c'était un gros moment difficile pour eux. Mais c'est vrai que, très égoïstement, en habitant sur place, j'ai pu visiter des choses où je n'allais jamais, parce que moi, s'il y a trop de monde, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas de plaisir à voir quelque chose si on est tous serrés et qu'on est collés les uns aux autres, que tout le monde se bouscule, je ne vois pas l'intérêt. Je comprends qu'on puisse y aller, mais moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt pour moi. Du coup, il y a des choses comme par exemple le pavillon d'or, où je n'étais jamais allé en vacances, où je n'étais jamais allé en vivant un an et demi sur Kyoto. Sur la fin, je suis allé et il y avait personne et c'était génial. Voilà, il y avait plein d'endroits comme ça où j'ai pu vraiment profiter. Et effectivement, les endroits sont magnifiques. Mais moi, quand il y a trop de monde, c'est too much. Il y a un peu de monde, ça va. S'il y a vraiment trop de monde, je profite pas. Et du coup, je préfère aller visiter autre chose qui me donnera plus de plaisir, tout simplement. Et Kyoto, vraiment, c'est devenu un petit peu. Moi, parfois, je dis Kyoto, c'est Disneyland. Il y a des quartiers où c'est Disneyland où on fait la queue dans la rue pour aller voir un monument. Et la queue peut durer longtemps. Elle peut prendre toute la longueur d'une rue. C'est assez impressionnant. Et donc, pour vous expliquer. Mon premier contact avec Kyoto en vacances, la première fois que j'y suis allé, c'est la rue qui va monter jusqu'au Kiyomizu-dera, qui est une des attractions principales de Kyoto. Je connaissais pas très bien la géographie de la ville, donc j'étais tombé un peu par hasard, mon train s'arrêtait, la station la plus proche était là, je me suis dit bon allez, on va commencer par ça. Et donc faut imaginer une rue qui se traverse habituellement, qui est montante, et qui va se monter en 5 minutes en gros, à peu près, vous en avez à peu près pour 5 minutes pour aller du bas vers le haut, peut-être 10, j'en sais rien, mais dans ces eaux-là. Quand il n'y a personne, je l'ai déjà fait de nuit, ça se fait facilement. Et là, on arrive en bas de la rue, donc vous vous rendez compte, il y a 5-10 minutes à monter, et c'est noir de monde, vraiment. Les gens étaient à la queue leu-leu, toutes les uns collés contre les autres, il n'y avait quasiment pas la place de passer, il fallait vraiment zigzaguer pour pouvoir réussir à avancer. Un truc pas du tout Covid-friendly, en gros, c'était noir de touristes. Et quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, je voyais où était le temple, qu'il était très tout là-haut, et que j'ai vu que la rue comme ça qui montait était remplie de gens. J'ai fait, non, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, ça doit être l'attraction principale, je vais aller voir autre chose. Du coup, j'ai tout de suite bifurqué dans la première rue un peu plus calme que j'ai trouvée. Petite rue, il y avait un petit peu moins de monde. Alors, dans le quartier, c'était un peu difficile de trouver des rues avec moins de monde, mais il y en avait moins, et puis petit à petit, j'ai essayé de me faufiler dès que je voyais des rues où il y avait personne, tout simplement. Alors, pour vous dire, le Kiyomizu-dera aussi, je l'ai visité en 2020, pareil, quand il n'y avait plus de touristes à Kyoto. Parce que ça ne me donnait pas envie, en fait, tout simplement. À chaque fois que j'y allais, il y avait trop de monde. Alors, si vous y allez très tôt le matin, vous y allez, choses comme ça, vous pouvez ne pas avoir grand monde. Si vous y allez le soir, par exemple, dans les rues, il n'y a personne. Kyoto est une ville, les touristes vident Kyoto assez rapidement. Et donc, la nuit, dans les zones touristiques, vers 20h, vous pouvez être sûr que 21h, les rues elles sont désertes. Donc vous pouvez faire des très jolies photos, vous balader. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans certains temples forcément parce qu'ils sont fermés. Donc du coup, il y a des choses comme ça que j'avais jamais fait. En plus, moi, le Kiyomizu-dera, je me souviens, même la fois où j'y suis allé, où il y avait un petit peu moins de monde, j'étais allé, je crois, en période Covid, mais il y avait encore des touristes chinois. Mais du coup, sur place, ça ne parlait que chinois. Voilà, on n'entendait pas un mot d'anglais. Pas un mot de japonais, pardon. On n'entendait que du chinois, tous les gens autour de moi étaient des chinois, et c'est vrai que toujours pareil, moi quand je vais au Japon, c'est pour vivre au Japon, c'est pour voir des japonais, c'est pas pour être entouré de français, entendre du français tout le temps, c'est pas pour entendre du chinois tout le temps autour de moi, du coup il y a ce petit côté là qui moi me plaisait pas à Kyoto, Ce qui est normal, on va entendre, c'est une zone à touristes, donc vous allez entendre plein de langues différentes qui vont parler. Mais quand vous n'entendez plus que ça, vous vous dites, il y a un problème. C'est pas normal qu'on n'entende pas, on devrait avoir au moins moitié-moitié, qu'il y ait des commerçants, qu'il y ait des locaux qui viennent visiter, etc. Et franchement, moi, j'avais toujours ce sentiment-là. J'ai peut-être pas eu de chance aussi hein, quand j'y allais, hein, mais voilà, ça me plaisait pas trop. Donc en plus, vous connaissez un peu le touriste chinois qui est pas forcément le plus respectueux. Bien sûr, tous les Chinois sont pas comme ça. Et en plus, souvent, c'est des touristes. C'est-à-dire que quand ils sont chez eux, tout se passe bien. Mais quand ils vont en vacances, même le gouvernement chinois avait dû un jour donner des directives aux touristes chinois pour dire comportez-vous bien à l'étranger. Ce qui est quand même assez étonnant quand on en arrive là. Ça veut vraiment dire qu'il y a un problème. Et moi, vous savez que je suis allé au Japon parce que j'aime le respect. J'aime justement le respect qui existe au Japon. Les gens qui s'excusent, qui font attention. Donc moi, être au milieu de ça, je vais pas prendre du plaisir, donc clairement je vais éviter tous ces endroits-là, quoi. Mais bon, soyons honnêtes, hein, dans les discussions avec les fans du Japon qui me disaient Kyoto, c'est magnifique. Moi, dans ces cas-là, j'étais plutôt à me dire oui, mais alors c'est vraiment pas ma ville préférée au Japon, c'est pas le meilleur souvenir que j'ai de vacances. Vraiment, j'ai beaucoup plus kiffé me balader à Tokyo ou à Fukuoka, voire même à Osaka, vous le savez, j'en ai déjà parlé, qui est pas forcément ma ville préférée pour vivre. Mais quand j'étais en vacances, je préférais limite me balader dans Osaka, même si c'est moins joli en termes de, encore une fois, Kyoto c'est une ville sublime, mais voilà, je préférais me balader là-bas, j'avais une meilleure ambiance que quand j'étais à Kyoto entouré de milliers de touristes autour de moi, quoi. Et vous le savez aussi si vous suivez mes aventures podcastiennes, quand j'ai dû choisir une ville pour faire mes études au Japon, j'avais opté à la base pour Fukuoka. Tokyo étant trop cher pour bien vivre, voilà, moi je voulais quand même vivre correctement, je voulais pas vivre en étudiant mangeant que des pâtes tout le temps, et Tokyo m'aurait vraiment flingué mon budget juste dans l'appart. Et pour vous dire, j'avais même mis Osaka aussi en troisième position quand je faisais mon petit classement, alors que je vous l'ai dit, je suis pas forcément fan absolu de la ville, surtout pour y vivre. Au départ, Kyoto, c'était même pas une option dans ma tête, hein, vraiment. Et je dois avouer que je sais plus comment, vraiment, Kyoto est revenu sur la table. Je crois qu'un jour, je me suis dit, dans ma tête, je m'étais dit Fukuoka, mais sans vraiment réfléchir vraiment à pourquoi Fukuoka, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux, posons-nous et réfléchissons un peu. Et donc, je me suis dit que ça serait peut-être bien de remettre le truc à plat et voir si c'était la bonne solution. J'ai donc réfléchi à nouveau aux avantages et aux inconvénients de chaque ville, et j'ai remis Kyoto dans la balance, tout simplement. Et en cherchant, je me suis dit que Kyoto, sur le papier, ça avait quand même de la gueule. Voilà, niveau avantage, il y avait quand même pas mal de choses. Surtout par rapport au Kansai, par rapport à la qualité de vie dans la ville, etc. Que c'est une ville où le centre est petit, qu'il y a les montagnes, mais qu'on n'est pas loin de Nagoya, qu'on n'est pas loin d'Osaka, pas loin de Tokyo non plus. Je m'étais dit, c'est pas si mal, il y a quand même beaucoup d'avantages sur le papier. Et puis la ville est belle, hein, encore une fois. Donc j'ai hésité longuement entre Tokyo et Kyoto et Fukuoka. Fukuoka a finalement remporté la mise, mais le fait que j'hésitais un peu trop longtemps a fait que l'école que j'avais choisie à Fukuoka, parce que j'en avais ciblé une en particulière, n'avait plus de place pour moi du coup. Donc je me suis dit, c'est un signe du destin, on va pas se prendre la tête pendant 15 plombes. J'avais mis Kyoto en second, parce que Tokyo, encore une fois, je l'avais éliminé, mais j'avais vraiment pendant un mois vraiment hésité entre Kyoto et Fukuoka, je savais pas vraiment lequel choisir. Et je me suis dit, ils ont choisi pour moi. Donc j'ai pris une autre école que j'avais repérée moi à Kyoto qui s'appelait le Nihongo Center et je me suis dit c'est comme ça et puis let's go, on verra bien ce que ça nous donne. Mais avant de partir, j'avais quand même un peu d'appréhension hein, car même si j'avais donc listé plein d'avantages comme je vous le disais, j'avais vraiment peur que le touriste de masse, de voir des gaijins partout et des touristes partout, des gens parler chinois, anglais sans arrêt, c'est vraiment l'image que j'avais de Kyoto quand j'y étais, qui te bouscule, qui respecte pas les règles, etc., d'être vraiment entouré de touristes, ça me monte vite à la tête et ça m'énerve. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai expliqué, moi le Japon, je voulais y aller pour le côté, c'est calme, c'est apaisant, c'est poli, il y a du respect, et si j'étais entouré de touristes et de pas pouvoir vivre ces choses-là, j'aurais pas profité, j'aurais pas aimé mon expérience au Japon, donc j'avais quand même une petite appréhension. En me disant aussi, il y a moyen de les éviter, mais moi, pour l'instant, de ce que j'avais vécu en vacances, je les avais pas trop évités, donc ça m'avait pas plu, quoi. Mais bon, comme on dit, il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron, donc je suis allé là-bas, et après avoir fait ma liste de coffee shop, vous le savez, hein, j'ai préparé ma petite liste de coffee shop, et testé et avoir trouvé un super appartement avant de partir, qui était un appartement que j'ai vraiment kiffé, la magie a vite opéré au final. Je me souviens que je connaissais un peu la ville hein, tout de même, hein, mais beaucoup moins que Tokyo par exemple. Et que les premières sorties, j'ai testé un ou deux super coffee shops le premier jour. Enfin, peut-être pas le premier jour parce que j'ai dû faire des boutiques, etc. les premiers jours pour aller aménager mon appartement parce que j'avais rien, j'avais pas de meubles. Mais on va dire que mon premier jour de sortie, je suis allé tester deux coffee shops que j'avais, qui était un peu dans ma top liste dans le centre. Et je suis tombé sur un super magasin de donuts hyper par hasard. Et j'avoue que le premier jour comme ça, où j'ai super bien bouffé, où les lieux étaient vraiment chouettes, etc., je suis tombé sur des gens hyper gentils dans un coffee shop qui sont devenus un peu ma deuxième maison quand j'étais là-bas. Je me suis dit, ok, Kyoto, tu sais me parler, on va peut-être s'apprécier toi et moi. En plus, je venais de finir de manger mon donut, ce donut c'était à tomber, j'étais là, je pense que je vais quand même bien kiffer vivre ici. Car oui, il faut le savoir, je parle tout seul tout le temps. Ah oui, parce que là, vous n'en rendez pas compte. Je me parle à moi-même en même temps. Après 118 épisodes de ce podcast, je pense que vous avez dû comprendre que parler tout seul n'était pas forcément un problème pour moi. Voilà. Donc, ça m'arrive même en ville, hein, de me dire « Oh putain, Kyoto !» Je l'ai vraiment fait, hein, vous pensez comme ça, mais j'étais dans la rue et je me suis dit « Ouais, ok, Kyoto, toi et moi, on va devenir bons copains. » Bref, vous le savez, moi j'aime explorer en plus, hein, Explore Japon, hein, tout est dans le titre. Et là, bah, j'avais le temps de le faire. J'avais fait les principaux spots touristiques de Kyoto quand j'étais en vacances. Je pouvais donc un peu vagabonder dans des coins moins connus de la ville. Et bah, comme d'habitude, hein, moi, ma technique, c'est on prend un Google Maps, on regarde où il y a l'air d'avoir des petits parcs, des petits ruisseaux, des rues qui ont l'air rigolotes, ou un petit quartier commerçant qui a l'air petit, ou voilà, un petit point qui a l'air sympa. Et bah, on y va. Voilà, on y va un peu au pif. Et c'est là que la magie vraiment a commencé à opérer pour moi, dès les premières semaines finalement. Je suis tombé lors de mes premières balades dans le nord de Kyoto, j'étais allé sur des petites ruelles vraiment chouettes, qui étaient super calmes, résidentielles, qui sentent bon le Japon, moi que j'aime, et j'ai tout de suite compris que j'avais pas fait un mauvais choix. Je me rappelle aussi qu'une de mes premières balades dans le nord, c'était donc, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un centre de conférence, et il y a un petit lac, je savais même pas qu'il y avait un petit lac à Kyoto, moi quand j'étais allé en vacances, parce que c'est un endroit où on va pas forcément, c'est pas dans la zone où il y a toutes les attractions touristiques, et cette balade autour du lac où je suis tombé sur un daim en plein milieu, voilà, en me disant putain, il y a des daims à Kyoto aussi, le lac était très très grand, il y avait des pédalosings, vous connaissez mon amour pour les pédalosings, parce que oui, Kyoto je l'avais choisi alors qu'il n'y avait pas de pédalosings, c'était quand même très difficile pour moi, mais voilà, là il y avait des pédalos, je crois qu'en plus c'est pas des pédalosings, c'est juste des pédalos normales, mais c'est ça la grande tristesse de Kyoto. Mais voilà, il y avait ce petit lac qui était vraiment dans Kyoto, hein. on peut y aller en métro, etc. C'est la fin du métro au nord. La balade était géniale et je me suis dit, c'est top quoi. Et au fil de mes aventures, j'ai découvert vraiment plein de super coins où je pouvais être tranquille tout en profitant de coins magnifiques et qui avaient vraiment, il y avait de quoi faire quoi. Il y en avait partout. Encore une fois, pour moi, Kyoto, toute la ville est une attraction. Bien sûr qu'il y a toutes les attractions principales qui vont être les wow effects de Kyoto qui sont ouf. Mais il y a toute la ville, vous pouvez vous balader dans n'importe quelle rue, c'est magnifique. Ouais, il y a plein de petites choses, il y a plein de petits trucs planqués, il y a des ambiances qui sont chouettes. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment aussi commencé à apprécier la taille humaine de la ville de Kyoto. Parce que, ok, c'est 1,4 million d'habitants, c'est beaucoup. La plupart d'entre vous, je ne sais pas où vous habitez, sauf si vous habitez Paris, mais vous n'allez pas habiter dans des villes d'1,4 million habitants. C'est sans la banlieue, hein. C'est vraiment Kyoto qui fait 1,4 million d'habitants. Mais je vous le répète souvent, j'avais l'impression de vivre à la campagne à Kyoto, vraiment. Le centre-ville, il n'est pas grand. La ville est très étendue, on voit les montagnes tout autour. Même le centre-ville, les buildings sont pas hauts, il y a une limitation de hauteur. J'avais la chance d'habiter au dernier étage de mon immeuble, dans le centre-ville. Et du coup, j'avais une super vue sur les montagnes tout autour de Kyoto, quoi. C'est vraiment une cuvette. Quand je sortais de chez moi, à 5 minutes à pied, j'avais la Kamogawa, et je vous en ai déjà parlé dans un podcast précédent, c'est un coin qui est super agréable, beaucoup de coins calmes qui étaient présents dans Kyoto finalement, et même dans le centre. C'est-à-dire qu'en fait, les touristes, c'est un truc de toute façon dans toutes les villes au monde, hein, mais un touriste, il va souvent que dans un point touristique, il n'explore pas beaucoup autour. Il y en a qui le font, mais beaucoup moins du coup. Et vous pouvez habiter dans un centre touristique, si vous voulez vous éloigner de une ou deux rues, vous allez sûrement croiser personne. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, alors que c'est bête. Mais du coup, j'ai pas trop ressenti ce problème de touriste à Kyoto. Et je vous parle même pas du Kansai, hein, parce que le Kansai, c'est un des attraits principaux si on vit à Kyoto, qu'on vit à Osaka ou à Kobe. Je le savais déjà, hein, pour moi, c'était le gros point clé que j'avais mis Kyoto en plus. C'était, et puis Osaka aussi, hein, avait ce même gros point plus, c'était « je vis dans le Kansai ». C'est parce que le Kansai, c'est un vrai bon plan pour découvrir des coins qui sont très différents, et qui est facile à faire parce qu'il y a un réseau de chemin de fer qui est super bien fichu dans la région. On va sans prendre le Shinkansen, donc sans payer super cher, on peut aller à Osaka en 40 minutes. On va dans le plus grand lac du Japon en 10 minutes, à Otsu. On peut aller à Kobe, qui est une ville portuaire. On peut aller à Nagoya en 2 heures ou 2 heures et demie si on ne prend pas le Shinkansen. En prenant le Shinkansen, c'est encore plus proche, c'est une demi-heure. Il y a des coins qui sont dans la montagne, vraiment reculés. Il y a des coins qui sont des champs. On peut découvrir des champs près de Kyoto qui sont vraiment dans la ville de Kyoto. Il y a plein de villes de banlieue qui sont très différentes où il y a plein de balades à faire. Bref, le Kansai, il y a tout à portée de main. Je ne vous ai même pas parlé de Nara, mais bien sûr, il y a Nara pour les grosses villes. Il y a tout à portée de main, tout est proche. Et en plus, même si vous voulez vous balader, vous voulez aller à Hiroshima ou autre, vous êtes dans le centre du Japon finalement. Du coup, Tokyo n'est pas loin, Hiroshima n'est pas loin. Donc même si vous voulez faire des grosses balades, bah, c'est plus pratique. Voilà. Donc le Kansai a vraiment un avantage de ouf pour ça. Après, je vais pas vous mentir, je me suis dit rapidement que c'était pas un mauvais choix d'aller à Kyoto, de vivre à Kyoto, mais ça m'a pris du temps pour vraiment être totalement amoureux de la ville. Par exemple, en octobre, je suis parti faire 2 semaines sur Tokyo en vacances. J'étais arrivé en avril sur Kyoto, pour ceux qui se rappellent pas. Et j'ai kiffé. Voilà, mon voyage à j'avais déjà fait des voyages à Tokyo, hein, bien sûr, j'en avais fait plusieurs. J'avais dû faire 4 semaines en vacances, un truc comme ça. Donc là, oui, j'avais dû faire deux fois 2 semaines. Et donc là, bah, je retournais. Depuis mon arrivée au Japon, je retournais à des vacances à Tokyo. J'avais pris 10 jours, je crois, hein, ou 2 semaines. Et bah oui, j'ai kiffé, j'ai adoré. Moi, j'adore Tokyo. Je suis un vrai citadin dans l'âme à la base. Je suis pas non plus hyper fan si tu me mets dans une petite ville de province ou si je vis à la campagne, ça sera pas mon truc. Même Kyoto, il y a le fait que ça soit pas une grosse ville pour moi, parfois il y a des choses qui me manquent. C'est pas la ville idéale non plus pour ça.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et Tokyo, vraiment, bah, j'adore. Voilà. Pour moi, c'est juste magique d'être à Tokyo. J'ai adoré ce jour-là, pendant ce mois d'octobre, explorer à nouveau Tokyo. J'avais mes habitudes là-bas, vu que ça faisait déjà, comme je vous l'avais dit, j'avais déjà vécu 4 semaines en vacances. J'adore vraiment cette ville. Je pense que si à la fin de ma vie, j'ai jamais fait l'expérience de vivre quelques mois à Tokyo, j'aurais quand même un manque, j'aurais une déception de me dire « j'ai pas vécu à Tokyo ». Alors pas juste 2 semaines ou 1 mois, mais voilà, si un jour je peux vivre 6 mois, 1 an à Tokyo, je serais content de l'avoir fait, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. Mais voilà, si je le fais pas un jour, je pense que j'aurai cette déception en moi. Et donc, bah, quand je rentrais de mes voyages de Tokyo, parce que j'en ai fait d'autres après, que je revenais sur Kyoto, j'avais toujours, mais vraiment, un petit regret en me disant que je préférais Tokyo, que c'était ma ville. Vraiment, je le sentais en fond de moi, je me suis dit « mais Tokyo, j'ai vraiment envie d'y vivre ». Et même parfois, j'avais un petit regret en me disant j'aurais peut-être dû choisir de faire mes études là-bas, même si le budget, bah, j'aurais peut-être moins profité, etc. Mais quand je rentrais à Kyoto, je me disais toujours non, mais c'est là-bas que j'ai envie d'être, quoi. Hein, j'ai envie d'être à Tokyo. Alors bon, j'étais pas non plus au bout de ma vie sur Kyoto, hein, j'étais pas en train de pleurer, en train de me dire pourquoi. Mais quand même, voilà, chanter Tokyo m'excitait vachement plus que la vie sur Kyoto. Mais un jour, je me souviens très bien, c'était avant mon premier départ du Japon, en février 2019, si je dis pas de bêtises. J'ai quitté Kyoto et du coup bah, j'étais triste, hein, bien entendu, mais triste principalement parce que je partais du Japon, hein, tout simplement. Sauf que bah, comme d'hab, avant de partir, je me suis dit bon, bah, quitte à partir, j'adore Tokyo, je vais faire 10 jours sur Tokyo, hein, on va en profiter quand même. Donc j'ai eu ce sentiment et donc quand je suis arrivé à Tokyo, j'ai eu un sentiment qui est revenu, que j'avais pas eu trop avant, que bah, je m'étais beaucoup attaché à Kyoto. J'étais bien, que j'aimais bien ma vie là-bas, que j'avais mes petites habitudes qui s'étaient mises en place et je commençais à avoir un petit manque. Il y a aussi la qualité de vie qui avait grandement, ma qualité de vie à moi, hein, qui avait grandement augmenté en vivant sur Kyoto comparé à ma vie parisienne d'avant, alors que pourtant bah, j'avais plus de rentrée d'argent, hein, parce que je travaillais plus, j'étais étudiant, que je pouvais pas autant profiter de la vie de tous les jours, me faire des cadeaux, aller au resto aussi souvent, faire des choses comme ça, parce que mon budget était un petit peu plus limité au final et qu'il fallait que je fasse attention. Mais voilà, ma qualité de vie était quand même meilleure, je trouve. Et je marchais un jour donc, dans les rues de Tokyo avant de partir, donc, pendant ces 10 derniers jours, donc cette ville qui me rend ouf, hein, à chaque fois, hein, que j'adore. Hein. Et j'allais prendre l'avion bientôt pour un retour en Europe. Et je sais pas, j'ai eu une journée ou 2 journées peut-être où je me suis dit, Mais en fait, je suis mieux à Kyoto qu'à Tokyo. Et même, il y avait un petit côté, bah, Tokyo, ok, j'ai fait des trucs qui m'excitaient, mais je sais pas, je pense pas. Alors, voilà, je pense que c'était la situation du moment aussi, hein, parce que Tokyo, j'ai rien fait à Tokyo. Hein. J'ai dû faire 2 mois à Tokyo en cumulé en vacances, voilà, depuis que je pars en vacances à Tokyo, en vivant aussi au Japon. Et j'ai rien vu en 2 mois. Il reste des tonnes et des tonnes de choses à découvrir, forcément. Mais je sais pas, à ce moment-là, je me baladais, je me disais, oui, mais là, en fait. Bah non, en fait, je suis mieux à Kyoto, je suis mieux là-bas, quoi. Et j'ai eu ce sentiment. Voilà, c'était la première fois que j'avais ce sentiment-là, surtout quand j'étais à Tokyo. Kyoto, en plus, bah, j'y faisais mes études. Donc la semaine, c'était l'école. Beaucoup de devoirs, peu de temps libre. Et le week-end, au bout d'un moment aussi, j'ai eu beaucoup de devoirs aussi, donc peu de temps libre. Et quand j'allais à Tokyo, bah, Tokyo, c'était que les vacances à chaque fois. Hein. J'étais vraiment tout le temps là-bas en vacances. Sauf que j'avais pu faire en gros. Pendant 1 mois, de janvier à février, j'ai pu vivre à Kyoto en gros en mode bah, tranquille, parce que j'ai arrêté l'école et j'ai eu 1 mois pour partir. Pas totalement tranquille, parce qu'il a fallu préparer mon départ, vendre mes meubles, etc., ce qui a pris beaucoup de temps. Mais j'avais quand même pas l'école, et du coup j'avais moins de pression, j'étais plus libre. Du coup, les côtés négatifs de ma vie à Kyoto, qui étaient principalement dus au fait bah, voilà, que les cours c'était compliqué, bah, je les avais plus. Donc du coup, Kyoto, j'ai vraiment pu profiter. Et même si je savais que j'avais déjà vraiment appris à apprécier et à aimer la ville, hein, bien sûr, bah je me suis dit qu'une partie de mon cœur était quand même maintenant pris par Kyoto. Alors, est-ce que ça veut dire que je préfère Kyoto à Tokyo? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Vraiment, je serais incapable de répondre à cette question. Je pense que j'aime les deux villes. Les deux villes sont vraiment très différentes. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Si demain, par contre, on me disait tu peux vivre dans l'un ou l'autre, t'as le choix, ça serait vraiment pas simple pour moi de choisir. Il y aurait des considérations financières hein, forcément qui rentraient en compte, parce que pour moi, une ville comme Tokyo, pour vraiment en profiter, c'est quelque chose de personnel. Hein. Je vous dis pas que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas kiffer de vivre à Tokyo. Moi, vraiment, par rapport à ma situation maintenant, mon vécu, etc., pour moi, des villes comme Tokyo et Paris, si tu veux vraiment en profiter, c'est bien d'avoir de l'argent et de pouvoir bah, bien vivre, de vivre dans le centre, de ne pas vivre dans une cage à poules, de ne pas avoir 2 heures de transport à te faire, etc. Et bah forcément pour ça il faut du budget, hein. Il faut vraiment du budget. Et pour un budget qui va être beaucoup plus modeste, à Kyoto, bah tu pourras faire ça. Tu pourras vivre dans le centre, tu pourras ne pas vivre dans une cage à poules. Voilà, moi j'ai vécu à Kyoto en tant qu'étudiant largement mieux que ce que je vivais à Paris, alors que je gagnais de l'argent tous les mois. Ça me coûtait moins cher, vraiment. La vie me coûtait moins cher. Et donc ma vie était plus agréable qu'à Tokyo, au final, je pense, ou qu'à Paris, parce que bah voilà, le coût de la vie est moins cher. Donc vraiment, ça va dépendre le côté financier pour moi est très important dans ce choix de l'une ou l'autre ville. Mais honnêtement, on m'aurait dit il y a 3 ans que j'aimerais cette ville autant, bah ça franchement, je vous aurais pas cru. Et vous allez me dire, c'est chelou parce que ta crainte principale, c'était les touristes, et finalement, t'en as pas parlé tant que ça. Bah oui, car étrangement, je vous l'ai quand même un petit peu dit, j'ai pas été gêné par les touristes finalement. J'habitais dans le centre, hein, vraiment de Kyoto, donc j'aurais pu les croiser. Alors, pas le centre touristique, mais le centre-centre-ville. J'étais à 10 minutes à pied voilà, de l'hyper-centre de Kyoto. Et moi, à 10 minutes à pied, bah, je les croisais pas. Ils étaient dans les grandes avenues, dans les choses, mais dans les petites ruelles de mon quartier, ils n'étaient pas là. C'est pas les endroits où, bah, voilà. Et puis, j'allais pas non plus dans les endroits où les touristes allaient. Donc, du coup, la ville, elle est grande. Donc, bah, je les croisais pas plus que ça, finalement. Même dans certains spots à touristes, hein, voilà. Parfois, il y en a qui sont des bons spots touristiques, mais où les touristes vont quand même. Bah, il y a tellement de choses à faire à Kyoto que vous n'allez pas avoir le temps de tout faire. Donc, vous allez aller voir bah, les trucs du Lonely Planet, les trucs les plus connus, les plus waouh. Et pourtant, il y a d'autres trucs super jolis qui pourraient être dans une ville, un coin où vous direz ah, bah, c'est génial, je suis allé là-bas, c'était super. Mais bah, où il y aura moins de monde parce que bah, voilà, les gens n'ont pas le temps. Et puis aussi, bah, voilà, j'allais pas traîner dans les super spots à touristes, genre la forêt de bambou. Voilà. Parce que la forêt de bambou, par exemple, ça, j'ai jamais aimé, sauf le matin à 6 h du mat, quand il n'y a vraiment personne. Mais sinon, pour moi, j'appelle ça la forêt de selfie. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Encore une fois, c'est pour moi, hein, bien sûr. J'allais pas à Gyon, ou très peu, ou j'allais juste pour manger, parce que j'avais un resto que j'aimais bien, mais jamais. Ou le soir tard, parce qu'il n'y avait personne. Mais sinon, en journée, j'allais pas me promener là-bas. Le Kyumezodera, le pavillon d'or, etc. Voilà, c'était pas des choses que j'allais voir. Et j'ai été surpris justement d'arriver assez facilement à pas trop me rendre compte de ce touriste de masse qui était hyper présent à Kyoto, qui était vraiment ma crainte. Même si je dois l'avouer, hein, à chaque retour de Tokyo, vraiment quand je rentrais de Tokyo, c'est quelque chose que je ressentais. Tokyo est une très grande ville, hein, et les touristes, il y en a sûrement plus même qu'à Kyoto. Mais ils sont plus dilués, parce que c'est une très grande ville, il y a 40 millions d'habitants. Donc vous les croisez, vous les voyez un peu moins. Je pense qu'alors que quand j'arrivais via la gare JR à Kyoto, voilà, que je rentrais de Tokyo en Shinkansen, j'arrivais par la gare principale, bah là on est en plein dedans. Tous les touristes sont là, les sacs à dos, et regardent ma map, ah putain je suis où, ah, c'est magnifique, je regarde, je sais pas quoi faire, pardon, machin et tout. Et vous voyez, il y a énormément de touristes qui sont dedans, mais ce qui est normal, hein, c'est la gare principale JR. Et la gare, bah, JR, c'est les gens qui vont utiliser le JR Pass. Donc forcément, il va y avoir tous les touristes qui sont là. Et je vous parle de la gare JR parce que, par exemple, moi, pour aller à Osaka ou bouger dans le Kansai, souvent, je prenais d'autres compagnies ferroviaires où on croisait finalement pas les touristes non plus parce que bah, il n'y avait pas le JR Pass, c'était pas le JR, donc les touristes, ils ne vont pas prendre ça. Vous avez que les locaux, qui, finalement, ou quelques touristes qui ont décidé qu'il n'y avait pas de JR Pass ou qui ont décidé que ça serait plus pratique, parce que parfois, c'est plus pratique de prendre ces lignes-là, qui étaient dedans, mais on en croisait beaucoup moins. Et puis, j'ai exploré des coins que même les locaux, ils ne connaissent pas. C'est pas pour la péter, hein, mais quand je parlais avec des Japonais, parfois je disais ah putain, ce coin-là il est magnifique et tout, et les gens ils habitaient à côté, hein, ils connaissaient pas. Mais c'est normal, on connaît beaucoup moins sa ville quand en vacances ou quand touriste, hein, ça c'est un classique. Et moi, vu que j'adore explorer, découvrir des nouveaux coins, farfouiller pour trouver des endroits originaux où je peux faire des photos sympas, bah du coup ça m'a aussi évité ce désagrément d'aller dans des coins où il y avait pas grand monde, voilà, tout simplement. Et puis voilà, c'est vrai que j'ai oublié de vous donner une expérience de vacances. La première fois que j'ai pris, je sais pas si c'était la première fois, mais à un moment donné pendant mes vacances, j'ai pris, quand j'étais donc vraiment vacancier, j'ai pris la fameuse ligne JR qui se fait en 30 minutes, le super express, je sais pas comment, qui fait en 30 minutes Osaka-Kyoto. D'habitude, j'avais même en touriste, en vacances, j'avais pris une autre ligne qui était beaucoup plus pratique pour moi, que j'avais ciblée, qui allait dans les coins touristiques de Kyoto et qui partait de mon hôtel, mais qui n'était pas la ligne JR. Et j'aimais beaucoup parce que là aussi, j'avais eu cette expérience de me dire « Ah ben, il n'y a que des locaux, c'est sympa, etc. Il n'y a pas de touristes, c'est agréable, le train est calme, les trains au Japon, j'adore. » Et un jour, j'ai pris cette fameuse ligne qui est une ligne voilà, qui est en 30 minutes, qui fait Kyoto-Osaka, qui est très rapide, etc. Et ça, c'est blindé de touristes. Et quand j'ai pris cette ligne la première fois de ma vie, je me suis dit « Plus jamais je la prendrai. » Parce que c'était que des gens, il y avait que beaucoup de touristes, que des gens qui hurlaient dans le train. Quand je dis hurler, c'est qu'ils parlaient très fort. J'ai vu une Française qui prenait la tête à son copain, le classique. Je sais pas, que la fille prenait la tête, hein, ça aurait pu être dans tous les sens, en même temps, c'est pas le délire. Mais classique, oui, mais pourquoi on fait ça? Mais je t'avais dit, on devrait aller là-bas. Non, mais tu te rends compte, hein, c'est pas possible. Et vraiment, qui gueulait dans le train comme ça pour des conneries, hein, il se passait rien. Et plein, il y avait des groupes d'Espagnols qui étaient là, oh, qué tal, oh, qué tal. Et c'était pas du tout ce que je connaissais des trains au Japon, même en touriste. Et là, j'étais dit, waouh, non, je peux pas. Enfin, moi, c'est pas pour moi. Enfin, je viens pas au Japon pour ça. Et du coup, surtout que j'avais expérimenté l'autre, le train qui était calme où il y avait que des Japonais. Et je me suis dit, non, moi, je veux pas faire ça. Et donc, ce genre de truc aussi, voilà, je le prenais le moins souvent possible. Mais effectivement, de temps en temps, quand on arrivait de Tokyo et qu'on arrivait à Kyoto, on retournait et je voyais la différence. Je voyais la différence d'ambiance entre Tokyo et Kyoto au niveau du tourisme. Et puis bon, voilà, je veux aussi dire, hein, pour finir, que je ne crache pas sur les touristes. Hein. C'est pas le truc, hein. J'en suis un aussi. Hein. Donc voilà, je ne veux pas cracher sur le tourisme. J'ai juste personnellement, c'est vraiment personnel, du mal dans ces endroits qui sont à fond dans le tourisme. Par exemple, à Tokyo, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je déteste ce quartier d'Asakusa. Pourtant, tous les touristes français, à chaque fois que je parle avec des Français, ils me disent « Ah ben moi, mon quartier préféré, c'est Asakusa à Tokyo ». Moi, non. Moi, la première fois que je suis allé à Asakusa, je me sentais pas bien. Je me suis dit « C'est nul, il n'y a pas d'intérêt ». Je suis passé là-bas, j'ai juste envie de déguerpir rapidement et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je ne suis pas resté longtemps, c'est un des quartiers que je connais le moins bien de Tokyo au final. Et les 2-3 fois où j'y suis allé, j'ai jamais kiffé vraiment. Mais je vous dirais clairement pas d'éviter ces zones-là. Hein. Ah non, faut y aller. Hein. On a tous des sensibilités différentes et ça reste des endroits qui sont magnifiques à voir. Donc il faut y aller. Et puis même moi, j'y suis allé. Et voilà, il y a des endroits où j'ai tenu parce qu'il y avait moins de touristes et d'autres où la magie n'a pas du tout opéré avec moi. Mais bon, on va se recentrer un peu sur le focus au final. Vous l'aurez compris, Kyoto m'a séduit pour son côté calme, car c'est une ville calme, tout simplement. Où il fait bon vivre, où il fait tout faire à pied, marcher dans les rues, c'est agréable, qui appelle à la balade, où chaque coin de rue est une découverte, et ça, forcément, j'ai adoré vraiment cette ville pour ça. La ville a un côté snob aussi, il faut l'avouer, et même si c'est pas bien d'être snob, voilà, on n'a pas à se vanter d'être snob, moi, j'aime bien ce côté snob. Voilà, c'est un truc, j'ai aussi un petit côté de saloperie d'hipster, hein, voilà, j'en ai conscience, donc je vais pas m'en vanter non plus, je vais pas dire que c'est bien, mais bon, je suis comme ça, voilà, c'est ma personnalité. Et donc, Kyoto, pour moi, c'est la ville qui est la plus snob au Japon, et j'aime bien ce petit côté. Il y a des gens qui vont préférer Osaka pour le côté plus friendly, par exemple. Moi, j'ai plus ce côté de petit côté snob, plus respecter un peu plus les règles, etc., les traditions, même si pourtant, je suis pas quelqu'un de très tradition, mais je trouve ça bien, voilà, tout simplement. Et quand vous dites à un Japonais, ce qui est très marrant, hein, que vous venez de Kyoto, qu'il soit de Tokyo, d'Osaka ou de n'importe où, ça en jette. C'est assez rigolo, ça en jette toujours de dire « Ah ouais, moi je viens à Kyoto ». On sent que les Japonais, il y a un petit truc qui fait « Waouh, tu vis à Kyoto !» Enfin voilà, genre, la chance, hein, tu vois, genre, t'es quelqu'un d'important. Enfin, c'est bête de dire ça, hein, mais parfois, t'en as vraiment l'impression de se dire « Ah t'es quelqu'un, waouh, t'es quelqu'un d'important. » Non, je suis juste à Kyoto, je suis étudiant à Kyoto. J'aurais pu être étudiant à Osaka, ça aurait été la même chose, hein, ça aurait pas changé grand-chose. Mais On sent ce petit truc quand même, je sais pas pourquoi, voilà, le mec te sent un peu obligé d'être, de... du coup quand on te dit ça, tu te sens un peu te la péter, tu fais oui, je viens de Kyoto, bien sûr, alors bon bah ça, ça ne change rien, mais c'est assez rigolo ce petit sentiment qu'ils ont par rapport à cette ville, je trouve. Bien sûr, pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui doivent détester les gens de Kyoto, etc., mais souvent, voilà, il y a un petit côté Kyoto c'est noble, voilà, je sais pas pourquoi. Mais bon, aussi, outre le fait que la ville est super bien placée, parce que voilà, encore une fois, hein, la ville offre... Elle est dans le Kansai, au milieu du Kansai, c'est quand même super chouette. Donc pour moi, la ville, elle offre une expérience vraiment ultime de la ville et de la nature, si vous aimez ça. Finalement, voilà, si on ne traîne pas dans les coins à touristes, bah, on n'est pas ennuyé par eux, on ne les croise pas, on y arrive, on se débrouille. Alors, je ne sais pas encore si ma vie se fera à Kyoto dans le futur, voilà, j'en sais rien, ou dans une autre ville du Japon, hein. Mais c'est sûr que par rapport à il y a 5 ans, où Kyoto figurait même pas dans mes possibilités d'installation pour être étudiant pendant 2 ans, maintenant elle figure dans la liste des top priorités pour aller vivre au Japon. Ça fait partie des plans possibles, bien imaginables pour moi. Et dans ma vie, j'ai beaucoup déménagé en étant enfant, j'ai plus de 30 déménagements à mon actif, c'est pour dire, hein, et je me suis jamais senti chez moi quelque part pendant longtemps. Longtemps dans ma vie, voilà, j'ai jamais eu un chez-moi où je me considérais chez moi quelque part. Il y a que 2 villes que je peux qualifier vraiment de chez moi. Alors je pense que c'est Paris, vu que j'y ai vécu 17 ans, donc ça fait quand même beaucoup, par rapport à toutes les autres villes où je vivais 6 mois, 1 an, 2 ans pendant toute mon enfance. Et il y a Kyoto aussi, qui pour moi fait partie de mon chez-moi maintenant. J'y ai mes coups de cœur, j'ai mes habitudes, c'est la ville où j'ai habité, où je me suis senti le mieux au monde au final pour l'instant, en 40 ans, bah, c'est vraiment la ville où je me suis senti bien, vraiment, et il y a très peu de villes où je me suis senti bien. Donc on peut dire que Kyoto, bah, ça a réussi à me retourner le cerveau, et j'ai envie de dire bah, bravo, bravo, tu as réussi. Je vous ferai peut-être un podcast un jour sur les choses que j'ai aimées à Kyoto, hein, vraiment précisément, et celles que j'ai moins aimées, par exemple, dans la ville, pour, en y habitant, hein, pas en tourisme, en y habitant. Donc bah, si vous voulez, voilà, si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me poker sur Twitter ou Instagram, voire Facebook, si ça vous intéresse que je fasse un podcast à ce sujet, vous me le dites en me disant ah ouais tiens ça peut être sympa et j'en ferai un, et puis si personne n'en... si j'ai l'impression que ça n'intéresse pas les gens, je ne le ferai pas. Mais voilà, en attendant de savoir si je retournais un jour chez mon ex Kyoto, on va passer à l'insta du moment. Et cette semaine, on va aller voir le compte d'un photographe, d'un vrai, qui vit dans le Kansai, qui fait partie de la fameuse team Japon Safari, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois dans ces podcasts. J'ai jamais fait de safari avec lui, mais je sais qu'il officie à Kyoto. Pour Kyoto, j'étais toujours avec Geoffrey, qui est un peu le monsieur Kyoto des safaris. Mais vous vous doutez que bah, il y a des clients à Kyoto, il y en a beaucoup, que Geoffrey ne peut pas tous les faire. Et du coup, bah, Xavier, de son petit nom, qui est donc un Lyonnais qui vit au Japon à Kyoto, bah, lui aussi fait des safaris là-bas. Et son compte, il est un peu moins connu que d'autres safaris, mais pourtant il vaut le détour. On y trouve franchement de très jolies photos de vie de tous les jours, beaucoup moins centrées photo carte postale, voilà, que certains autres comptes, mais qui va être plus street photo, voilà, photo de vie, des portraits, etc. Et franchement, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc si vous êtes curieux, il suffit de taper ZaviPix sur Instagram ou d'aller sur la page de l'émission, comme d'hab, vous connaissez la chanson, il y aura les liens qui vont bien. Mais maintenant, il est temps d'aller se brûler sur Kyoto, parce que oui, à Kyoto, on a chaud et on peut aussi se brûler. Oui, eh ben oui, on va se brûler. Alors non, on va pas aller mettre la main dans un bûcher, dans un temple. On va pas non plus dorer la pilule au soleil, même si parfois l'été il fait vraiment très très chaud à Kyoto. Donc là, ce serait même un peu trop se dorer, hein, parce que du coup, on se brûlerait carrément. Non, on va donc aller sur Kyoto dans un endroit dont je vous ai déjà parlé, le fameux Shotengai de Sanjo, un endroit que j'aime beaucoup. Dans cette rue commerçante, il y a un monsieur qui aime beaucoup et vraiment beaucoup les Français. Et pour preuve, il a décidé d'ouvrir un magasin de donuts. Bah oui, vous voyez pas le rapport et vous avez totalement raison. Car oui, il a ouvert un magasin de donuts, c'est vrai, mais c'est un donuts un peu spécial, vu qu'il s'agit d'un mix, d'un mélange un peu venu de l'espace, de donuts et de crème brûlée. Bah oui, au Japon, on n'a pas peur de tester des choses un peu cheloues parfois, ils essayent, et bah parfois ils n'ont pas forcément raison, mais là, sur ce coup-là, j'avoue qu'il a eu une bonne idée. Son concept est donc super simple, c'est un donuts, rien de plus basique, hein, une pâte à donuts, mixé avec de la crème brûlée. Alors c'est un donut avec un trou, hein, voilà, tout simplement, mais le trou est fourré de crème brûlée, comme une crème brûlée que vous pourrez manger, et bien entendu, il brûle au chalumeau par-dessus, crème brûlée traditionnelle, quoi. Et en plus, bah, ce qui est magique, c'est qu'il fait différents parfums. Ah oui, on est dans le mélange, hein. Donc vous allez avoir des donuts crème brûlée au chocolat ou au matcha, avec une crème au matcha, avec une crème au chocolat, et bah, est-ce que c'est bon? Parce que c'est ça la question. Eh bah oui, forcément, sinon je vous en parlerai pas. Il a une toute petite échoppe dans la rue, c'est vraiment pas bien grand. Hein. Vu que son atelier est à l'arrière, bah, il faut comme à l'ancienne appuyer sur une petite sonnette pour qu'il apparaisse. Sachant que, comment vous expliquer, c'est une boutique. Donc sa boutique, elle est à l'intérieur, mais elle est ouverte. Donc vous n'avez pas l'impression d'entrer dans une boutique, mais s'il tire un rideau, bah, vous serez dans une boutique. Je ne sais pas si vous voyez le concept. Hein. Mais du coup, il faut appuyer sur cette petite sonnette et il arrive de son atelier, tranquillement. Et si vous êtes français, là, je peux vous dire que le monsieur, vous allez lui faire sa journée, il va être à bloc. Bah, forcément, parce que vous êtes de pays de la crème brûlée, voilà, pour lui. Il rêve de pouvoir exporter son concept, exporter plutôt son concept à l'étranger. Et le but ultime, ça serait pour lui d'ouvrir une boutique en France. Du coup, ça serait vraiment, la France l'accepte, quoi. Bon, vu la tête de sa boutique, je pense que ça ne sera pas pour tout de suite hein, d'avoir un succès fou, malheureusement. Mais franchement, c'était un de mes nombreux petits plaisirs sucrés de Kyoto. J'aimais beaucoup de temps en temps me prendre un donut crème brûlée là-bas. En plus, celui au chocolat était vraiment pas dégueu. C'était ma petite boutique de la semaine, et en reparlant, ça me redonne vraiment très faim ces conneries. Mais là, tout de suite, on va passer, vous le connaissez maintenant, à mon petit bonheur coup de cœur de la semaine. Et si vous vous rappelez le sommaire, bah, le petit bonheur, c'est qui ? C'est vous. Bah oui, cette semaine, c'est vous tout simplement, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Même si je passe chaque semaine entre 2 et 4 heures de boulot, en gros, pour la préparation, l'enregistrement, la mise en ligne, du sur le site, aller chercher des photos pour les mettre sur le site, bah, à part ça, je bosse pas du tout sur la com du podcast, vous avez dû le voir, hein, de temps en temps, je vais faire un ou deux messages sur Twitter ou un truc comme ça, mais c'est très sporadique. Et pourtant, bah, les stats continuent toujours de grimper, et bah, ça, c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui en faites la promo et qui en parlez de temps en temps à vos amis, et je voulais vous en remercier pour ça. Et même si techniquement parlant, hein, que vous soyez 6 à m'écouter, ou que vous soyez 1000 chaque semaine, ça va pas changer grand-chose fondamental à ma vie. Hein. Ça me fera plaisir de voir ces stats hein, monter, hein, bien sûr, mais ça va pas changer grand-chose. Mais je suis quand même content. Voilà, et on va pas se le cacher, hein, l'ego, le fameux ego, fait qu'on est content de voir que bah, ça fait plaisir et que les gens aiment ça, a priori. Puis vos petits messages de soutien remontent encore plus le côté « je suis content ». Parce que bah, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui vous envoient des petits messages gentils, que ce soit sur Apple Podcast en commentaire ou via une bonne note. Voilà, quand il y a des bonnes notes, on est aussi content. Ou sur Twitter, Instagram, en message privé, etc. Bah, ça me fait toujours plaisir, voilà. Et puis bah, ça motive. Quand il y a des moments où on est fatigué, qu'on n'a pas trop le temps, ça motive à se dire « allez, on continue, c'est bien, il y a des gens qui aiment bien ». Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir tous ces messages-là. Alors, au passage, je voulais aussi m'excuser parce que je réponds parfois très lentement à ceux qui m'envoient des messages. Je suis un peu charrette à des certains moments et en ce moment, c'est le cas. J'ai beaucoup de choses qui changent dans ma vie et beaucoup de trucs à préparer du coup. C'est compliqué parfois pour moi de répondre vite ou alors parfois je vais répondre vite, mais je vais pas re-répondre à votre réponse très rapidement. Là, je sais que j'ai des messages en cours en retard. Il va falloir que je réponde dessus, donc je m'en excuse. Mais si j'ai oublié de vous répondre depuis un petit moment, n'hésitez pas à me relancer, hein, y a aucun souci là-dessus, me harcelez pas non plus, parce que si je vous réponds pas, c'est que j'ai pas eu le temps, mais parfois je peux aussi avoir oublié. Donc n'hésitez pas à me relancer. Mais en tout cas, sachez que ça me fait toujours super plaisir de converser avec vous, même si c'est juste un petit coucou, hein, moi ça me fait toujours plaisir, je suis content de discuter avec les gens, parce que bah, je parle tout seul, donc là au moins je parle un petit peu avec vous, j'ai un peu l'impression de ne pas faire qu'un monologue. Et en ce moment, pour vous dire, je me tâte à faire aussi un autre podcast en parallèle. C'est pas pour tout de suite, bah vous l'aurez compris, niveau temps, je suis limité. Mais pour un petit peu plus tard, peut-être cet été, qui serait en mode une fois toutes les deux semaines, voire peut-être tous les mois, je sais pas encore. Ça serait plutôt, en fait, ce serait pas faire un nouveau podcast, mais reprendre le concept de mon tout premier podcast qui parlait de Digital Nomade. Bah, car j'ai cherché moi-même en ce moment à écouter des podcasts sympas sur le sujet pour essayer d'apprendre des trucs en plus. Et le seul qui existe et qui commence pas mal à dater, il n'y a plus d'épisode depuis longtemps, il s'appelle Digital Nomade ou Nomade Digital, Nomade Digital je pense, qui était très bien fait, mais bah voilà, il date, voilà, il n'y a plus grand-chose, puis il n'y a plus de nouveaux épisodes, j'ai tout écouté. Et bah, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en podcast, à part bon, sur YouTube, il y a de quoi faire, mais en podcast, bah, il n'y a pas de grand-chose de super intéressant, je trouve. Et bah, je me dis que comme pour le Japon, j'aurais peut-être des choses à partager qui pourraient intéresser les gens, donc je me tâte à en refaire un, mais je vous en reparlerai si ça se fait. Sachant qu'en plus, il y aura une côté gestion de freelance, de digital nomade, la vie de digital nomade, les problèmes qu'on peut avoir. Mais aussi, j'aimerais bien faire découvrir bah, les endroits que je ferai visiter. Donc voilà, il y a plusieurs villes où je vais habiter, si tout se passe bien. Bah, j'aimerais aussi, bah, comme pour Explore Japon, aller explorer ces villes de temps en temps, pendant mes temps libres, pendant mes week-ends, et vous le faire partager pour peut-être vos futures vacances là-bas. On sait jamais où vous donner envie d'y aller, si c'est sympa. Donc voilà, mais je vous en reparlerai de toute façon à ce moment-là. Mais en tout cas, le grand bonheur de la semaine, c'est vous, et je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux à suivre, et pour tous vos messages que vous m'avez envoyés depuis le début, que ce soit les tout premiers qui m'ont écouté dès les premiers épisodes, et ceux qui arrivent maintenant, bah vraiment ça fait toujours plaisir. En attendant, bah, il est temps de se laisser pour cette semaine et de se dire à très bientôt pour un prochain épisode, comme d'habitude. Prenez soin de vous et de vos proches, et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? On dit matane, ciao, bye bye.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.